compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Il en rêvait avant même de faire du cinéma, convaincu que les grandes histoires doivent être racontées encore et encore. Alors, un nouveau West Side Story était-ce nécessaire ? Bonjour tout le monde, et c'est Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
60 ans après la sortie de West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins, la version toute neuve de ce Roméo et Juliette à New York est signé Steven Spielberg. Bonjour Laurent Vallière.
Bonjour.
Spécialiste des comédies musicales, producteur de 42e rue sur France Musique et auteur de ce passionnant podcast, La Story de West Side Story, en 10 épisodes à partir du 8 décembre, retour sur un chef-d'œuvre. Lui l'a revu spécialement pour nous avant d'aller découvrir cette version 2021. Bonjour Alex Baupin.
Bonjour Christine.
Auteur, interprète, compositeur notamment de si belles musiques et chansons de films made in France. À ce propos, où en sommes-nous en termes de comédie musicale ? Bonjour Pierre-Marie Dru.
Bonjour.
Superviseur musical justement et notamment du film Annette de Léo Scarrac sur la musique des Sparks. Enfin, les sorties de ce mercredi dominées par deux grands cinéastes enfermés dans leur pays. Mohamed Rassoulov, Le diable n'existe pas, et Kirill Serebrennikov, La fièvre de Petrov. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je devais relever un défi. Quelle serait la comédie musicale idéale à reprendre ? Et je ne pourrais jamais oublier ma jeunesse. J'avais 10 ans la première fois que j'ai écouté l'album de West Side Story et je ne l'ai jamais oublié. J'ai été capable de réaliser ce rêve et honorer cette promesse que je m'étais faite à moi-même. Tu dois faire West Side Story.
This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life at home.
Are you ready?
Tonight is about family.
The first gringo boy who smiles at you.
Fallait-il honorer une promesse ? Fallait-il refaire West Side Story ? Même quand on s'appelle Steven Spielberg, Laurent Vallière, pardon pour cette énorme question. Pour
en fait, depuis que j'ai vu le film lundi en projection de presse, j'arrive toujours pas à comprendre. En fait, j'ai trouvé aucune interview où il explique pourquoi il l'a refait. Il dit c'est une promesse, mais en fait, j'arrive toujours pas à comprendre.
Si, il dit c'est plus pertinent pour le public d'aujourd'hui qu'il ne l'était en 57 au vu de nos oppositions contemporaines qui se sont approfondies. Voilà
alors,
ce qu'il dit.
Alors là, il a raison. Et en fait, vous savez, je donne des fois des je suis parfois parrain de classe de comédie musicale. Je vois des gosses qui ont 20 ans. Tout ce qu'ils connaissent de la comédie musicale, c'est quand même High School Musical, Grease. Grease, c'est encore vieux d'ailleurs. Tous les trucs de Disney ou alors Glee. Et c'est vrai que quand un jour j'ai fait comme ça, j'étais dans une salle, je dis qui a vu West Side Story ? C'était une classe de comédie musicale. Hein. À peine un tiers l'avait vu, le film de 61. Donc je me suis dit, effectivement, ça pour le coup, le fait de le retourner, effectivement, ça peut peut-être donner envie aux gens et aux jeunes de redécouvrir ce chef-d'œuvre.
Alex Baupin, vous l'avez vu. Qu'est-ce que pour vous apporte cette nouvelle version de Spielberg ?
Ouais, il y a des idées quand même. Moi, j'ai trouvé que Rita Moreno, par exemple, le fait de la reprendre, voilà.
Alors de lui donner le rôle, c'est intéressant. Hein,
du pharmacien qui était Doc dans le premier film.
Ça, c'est un beau clin d'œil.
Il y a quand même des chansons et des morceaux qui résistent à tout. Notamment, moi, je trouve que sa version d'America est formidable. Après, moi, j'ai fait peut-être l'erreur de revoir le film original le soir d'avant. Et ce que je trouve, ce qui m'a gêné dans la version de Spielberg, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté de réalisme chez Spielberg. C'est-à-dire que c'est très aéré, ils vont dans le métro, ils vont partout, il y a de la figuration, on voit New York. Alors que dans la version originale, il y avait quelque chose de presque abstrait, de presque, de très comédie musicale d'ailleurs, dans le fait qu'il y avait...
Très stylisé,
qui enfermait les personnages dans le drame et dans la tragédie, que je trouvais beaucoup plus joli. Dans le film de Spielberg, à un moment donné, il y a... Donc, au moment où il chante Maria, par exemple, tout d'un coup, on voit des projecteurs qui s'allument, et je me dis, ça y est, il va partir dans un truc complètement dingue, et c'est à l'image du film de Spielberg, la caméra tourne, et il filme le régisseur qui allume les projecteurs. C'est-à-dire qu'il a un besoin point de réalisme constant qui fait que pour moi, on sort du registre de la comédie musicale avec le film de Spielberg et c'est ce qui m'a un peu gêné, même s'il y a des choses sublimes, hein, bien sûr.
C'est diablement réalisé quand même.
Non, mais c'est magnifiquement réalisé. En fait, moi, je suis d'accord entièrement avec Alex sur le fait que, en fait, il en a fait un thriller. À la limite, moi, la séquence qui a le moins marché pour moi, c'est la rencontre entre Tony et Maria.
C'est vrai, elle est moins poétique.
Et ça me fait penser à, dans le genre, Baz Luhrmann avait beaucoup mieux réussi la rencontre entre Roméo et Juliette dans son Roméo plus Juliette.
Ouais.
Et on a l'impression.
Dans l'aquarium.
De part et d'autre de l'aquarium, à travers des poissons au milieu qui nagent. Et on a l'impression qu'effectivement, il s'est servi finalement, et c'est ça qui me gêne, il s'est servi de la musique de Leonard Bernstein, non pas comme il l'avait conçu au départ, pour que ça soit un ballet écrit main dans la main avec Jérôme Robbins, quand il y a cette pulsation-là, ce rythme-là, il y a tel mouvement, Non, il s'en sert comme d'une musique de film. La plus belle séquence pour moi du film de Spielberg, c'est la bagarre. Vraiment, ce qu'on appelle the rumble. C'est quand il y a le meurtre, des deux chefs, deux bandes opposées. Et il le fait pas du tout chorégraphier. Il le filme sur la musique de Bernstein. Et je trouve que là, pour le coup, c'est un non-sens. C'est-à-dire que, alors, peut-être qu'aujourd'hui, pour intéresser le public à la comédie musicale, c'est ce qu'il faut faire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était du gâchis, finalement. Utiliser cette musique pour faire juste une musique de film de fond sur une bagarre qui est très bien chorégraphiée et très bien filmée, je me disais, pourquoi?
Pierre-Marie Dru, musicalement, vous êtes superviseur musical. Ouais. Vous avez aimé cette version de Spielberg. Vous avez aimé le travail sur la musique.
Oui, j'ai beaucoup aimé. En fait, je suis d'accord avec ce que disent Laurent et Alex. Après, je crois que je me suis fait avoir un moment par le répertoire, effectivement, par la musique de Bernstein et la virtuosité de Spielberg. Mais c'est que c'est un livret tellement incroyable qu'effectivement, je trouve ça assez génial qu'on puisse le réentendre. Il y a soit les gens qui ont vu West Side Story et qui peuvent avoir un avis comme nous là. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, je parle aux plus jeunes. Et c'est un classique. C'est comme au théâtre, quand on reprend une pièce de théâtre, on fait une nouvelle mise en scène. Je trouve ça, en fait, assez génial d'avoir cette fantaisie-là et de se dire, on repart à l'attaque sur un film pareil. Et il y a des moments vraiment de grâce dans le film de Spielberg. Moi, c'est plutôt celui qui m'a le plus marqué, c'est le Tonight, où, d'un point de vue musical, c'est assez.
Le quintet ou le duo?
Le quartet, parce qu'en fait.
Quand ils jouent tous, soyons précis.
Non, mais parce qu'en fait, c'est la même mélodie, il y en a une où c'est.
Mais c'est justement ce moment-là où ils se mélangent, c'est-à-dire que c'est cette espèce de canon avec les Jets et les Sparks qui se retrouvent et en même temps.
Les Sharks.
Et les Jets.
Il dit les Sparks.
Ah oui, bien sûr, il dit les Sparks.
Il vend encore son film.
Et donc, Annette et Anton. Non, et donc Maria et Anton qui se retrouvent. Et là, l'arrangement musical à ce moment-là, le travail de Gustavo Dudamel, le chef d'orchestre, c'est assez admirable ce qu'on voit à ce moment-là. Et je pense que la séquence, m'a plus impressionné que dans l'original.
Vous avez cherché les oreillettes dans les des comédiens, non? Parce qu'ils filment à chaque fois l'oreille qui n'a pas d'oreillette.
Oui, c'est un enjeu sur le film d'Eléos Carax, que tout avait été enregistré en live, une grosse partie des voix des comédiens, soit sur le set.
Et par rapport au Spielberg, parce que reparlons du Spielberg,
je pense que c'est vraiment un mélange, c'est-à-dire qu'on voit effectivement sur chacun des plans les comédiens changent le côté de leur visage et en fait les oreillettes disparaissent d'un côté à l'autre et c'est la grande différence d'ailleurs dans la mise en scène avec l'original. Où là je pense que c'est important pour une histoire justement d'envie de réalité, à ce que disait Alex, d'enregistrer une partie des comédiens sur le set, donc ça a été fait, je pense que c'est un mélange de tout ça.
Des grandes différences aussi, il y a un vrai casting de vrais latinos, Laurent Vallière, ce qui n'était pas le cas dans le film original.
En 1961, dans le film, effectivement, c'était compliqué, la seule qui était latino, c'était Rita Moreno, mais même quand Jérôme Robbins l'a créé en 57 à Broadway, le spectacle, il voulait à tout prix des gens comme dans la rue, comme il disait, il avait trouvé Chita Rivera, qui était une géniale portoricaine, qui a créé le rôle d'Anita sur scène, mais c'est vrai que Leonard Bernstein avait donné le rôle de Maria à Broadway à une femme qui s'appelle Carole Lawrence. Il était complètement fou amoureux de sa voix de soprano. Mais Jérôme Robbins détestait le fait qu'elle devait prendre un accent quand elle jouait sur scène et qu'elle devait se maquiller. Et c'est vrai que pour le film, effectivement, genre Shakiris se maquille pour devenir...
Terracotta, oui. Donc,
voilà.
Exactement, c'était les acteurs terracotta.
On ne dévoile pas les secrets de fabrique.
Non, et puis la chorégraphie était assez extraordinaire dans le premier, non?
En fait, c'est pour moi, West Side Story 1961, c'est la meilleure comédie musicale au cinéma.
Pourquoi?
La comédie musicale. Pardon?
parce que c'est bien filmé, parce que Robbins a participé à la réalisation, voilà. En tout cas était là. Dans le film de Spielberg, c'est très monté. Et en fait, c'est toujours, moi je trouve une erreur de monter énormément les chorégraphies, parce qu'on voit pas les gens en mouvement, on voit pas à quel point c'est une performance. Oui. Et dans le film original, c'est moins monté. C'est-à-dire que le montage est moins hystérique, entre guillemets, et on voit les gens danser, et on voit le mouvement dans la continuité. C'est ce que je trouve très beau, moi, dans le premier.
En fait, comme dit Alex, en fait, la comédie musicale, c'est, on est d'accord, le chant, le jeu, la danse.
Oui.
Et tout imbriqué. Et Jérôme Robbins, lorsqu'il a créé le spectacle en 1957, il a l'habitude de dire je mettais ma main sur l'épaule de Leonard Bernstein quand il composait, je lui disais rajoute une mesure là, patati patata. Et donc, tous les ballets étaient vraiment. À la seconde près, et en fait il était aussi metteur en scène, Jérôme Robbins, et donc il l'a mis en scène comme un film, comme un montage, tout devait aller très vite. Et comme Jérôme Robbins a participé à la réalisation du film de 1961, mais c'est un truc incroyable parce qu'on voit préserver pour le grand écran les danses magnifiques de Jérôme Robbins. Je prends un exemple qui a été complètement transformé dans le film de Steven Spielberg. C'est le numéro peut-être qu'on connaît le plus. C'est un numéro qui s'appelle Cool, où tout d'un coup tous les Jets sont en train de s'énerver parce que voilà, ils en veulent contre les Sharks. Et c'est l'image qui certainement vous avez peut-être en tête, où on voit cette bande de jazz qui saute en l'air parce que Jérôme Robbins, et on les voit tous et les genoux repliés au-dessus du sol en train de, et ce numéro a été complètement transformé dans le Spielberg pour en faire quelque chose de complètement différent. C'est devenu un duo entre Tony et Riff, le chef des Jets, et ça raconte complètement autre chose. Et je trouve que cette énergie qu'avait donné Robbins aux Jets, leur violence rentrée montré de façon dansée, eh bien, n'est plus dans le film de Spielberg.
Alors, on va rendre un dernier hommage à Stephen Sondheim, puisqu'il vient de mourir. On l'appelait le dieu vivant de la comédie musicale, et c'est lui qui a apporté énormément, en fait.
Oui, ils sont quatre à avoir créé West Side Story. Il y a Jérôme Robbins, le chorégraphe. Il y a Arthur Laurent, le livret, parce que moi, je trouve que le livret de Tony Kushner pour le film est hyper verbeux. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de dialogues. Et très moralisateur, quand même.
Allez, tiens, bim.
Leonard Bernstein, et le dernier, c'est celui qui décrit des paroles absolument incroyables. Dans la chanson, on connaît tous America, tatata. Mais il y a, avant le refrain, il y a les couplets où, en gros, c'est les petites portoricaines qui disent, ben moi, j'adore l'American Way of Life, j'adore les réfrigérateurs, alors qu'au Porto Rica, d'où je viens, c'est une île où il y a des maladies tropicales, c'est une île qui est laide. Et il mettait ça, des paroles sophistiquées dans la bouche de chacun des personnages. Alors, Steven Sondheim, pour la faire courte, en fait, à l'époque, il était compositeur. Il va se faire connaître surtout comme compositeur après, 20 comédies musicales. Et là, à 25 ans, il accepte, mon gré mal gré, parce que quelqu'un lui dit, mais attends, tu vas travailler avec des génies, vas-y, apprends. Et il accepte d'écrire uniquement les paroles de West Side Story. Et ça va être vraiment de la collaboration avec Bernstein.
Et c'est lui qui a imposé le Maria, beaucoup de fois répété dans la chanson.
Non, mais
Maria.
Le Maria, c'est l'exemple type. Ouais. Alors, je la fais courte. Mais c'est tellement.
On l'a jamais court, Laurent.
Non, c'est vrai. C'est le coup de foudre. Tony, Maria, coup de foudre.
Oui.
Et donc, il y a ce moment qui est écrit dans le script. Il faut que Tony chante que tout d'un coup, il est amoureux d'elle. La chanson du coup de foudre. Alors, Bernstein avait commencé à écrire, parce que c'est un projet qui avait démarré il y a très longtemps, une chanson un peu genre, oh, les lèvres pulpeuses que je viens de voir, patati patata. Et Sondheim dit, mais non. C'est trop romantique ton truc, c'est trop poétique. Il se trouve qu'à la salle de gym, quand il y a ce clash et ce coup de foudre, il y a Chino qui va voir Maria lui disant « Mais maintenant, viens ici avec Maria et arrête de fréquenter. » Et Steve Sondheim se dit bah, « Pour être réaliste, le mec il vient d'entendre le prénom de la jeune fille, Maria, et ben, je vais lui faire chanter pendant 3 minutes une chanson autour de Maria. » Et c'est génial, parce qu'on est dans le réalisme de la comédie musicale.
Vous entendez l'enthousiasme de Laurent Vallière, vous le retrouvez dans le podcast à partir du 8 décembre de Story of West Side Story. En France, en revanche, en termes d'une comédie musicale, notre maître, c'est lui, Jacques Demy.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Je ne penserai qu'à toi.
Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Mon amour, ce n'est pas encore l'heure.
Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas.
Désolé, Jacques, désolé, Michel. Donc, c'est les Parrains Fuyts de Cherbourg. les adieux entre Geneviève et Guy. C'est un exemple écrasant, Alex Baupin, parce qu'on a souvent comparé notamment les chansons d'amour à Jacques Demy.
Oui, ce qui est pas forcément pertinent, parce que évidemment que c'est un exemple écrasant à partir du moment où on essaie de refaire ça.
Oui.
Moi, je crois que dans ce que Christophe a essayé de proposer au cinéma, on était plus dans le cadre, plutôt que d'une comédie musicale ou que d'un film enchanté à la Jacques Demy, on était plus dans le cadre d'un film où des chansons surviennent. Ce qui était le cas dans certains films des années 30 à la Nouvelle Vague, où tout d'un coup, Julie Jim, Le Tourbillon, Gabin dans La Belle Équipe qui se met à chanter, sauf que ça devenait une fois dans ces films-là.
Ou même dans Les Demoiselles de Rochefort, parce qu'il faut dire que Les Parapluies, c'est chanté tout le temps. C'est l'incroyable Paris des Parapluies, c'est celui-là. Après, ils n'ont pas fait ça.
Mais l'idée de Christophe, c'est de dire cette tradition d'avoir une chanson dans qui survient dans les films, nous, on va en mettre 14. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans une comédie musicale, je trouve, dans les deux films qu'on a fait avec Christophe, qui sont Les Chansons d'amour et Les Bien-aimés, mais on est plus dans le cadre d'un film où des chansons surviennent, sauf que voilà, on en met 14 et ça devient un film avec des chansons, mais pas une comédie musicale, tellement, je trouve.
Petit salaud, ton jeu est clair, tu veux tout sans rancune. Le beurre, le cul de la crémière, deux pour le prix d'une.
Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère, vois comme tu te couches.
Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire, embrassez-vous sur moi.
Je n'aime que toi. Je n'aime que toi.
Petit salaud, petit pervers. Où as-tu mis
Pardon, Alex.
Mes droits d'auteur.
Et ce sont les acteurs. Et ce sont les acteurs qui chantent. Ça aussi, c'est une.
Mais voilà, c'est ça la grande différence.
Oui, avec le film de Christophe ou avec West Side Story.
Mais oui.
Dans l'original. Ah, bah alors, l'origine qui chante, mais.
Non,
j'ai l'impression. Ah, West Side Story, c'est l'époque, c'est encore presque la fin de l'âge d'or de Broadway, de Hollywood.
Désolé, j'ai lancé, je suis désolé.
Et donc, Nathalie Hollywood, c'est pas elle qui chante dans le film.
Donc, pas la fin. Ok, d'accord. Donc, Alex Baupin, donc.
J'ai fait court, là.
Oui, très court. Donc, à la différence de Demy, effectivement, alors, vous les dirigez vraiment, vous les faites répéter en studio, les acteurs d'Honoré, pour qu'ils chantent.
Oui. Oui, il y avait cette idée qu'avec Christophe, qu'il fallait que ce soit les acteurs qui chantent eux-mêmes. Oui. Bon, après, la différence de Demy, c'est que moi, j'écris pas le même type de musique de Michel Legrand, qui est une musique assez virtuose. On est dans de la chanson pop, là, où je dis pas que, moi, je suis capable de chanter ces chansons-là. Donc, il faut pas être un grand technicien de la voix pour être capable de les interpréter. Il y avait l'idée, dans les films de Christophe, de se servir aussi du fait qu'il ne soit pas réellement des chanteurs techniques, mais que privilégier évidemment une émotion, des fêlures, des façons de chanter, on est presque dans le fait de jouer et de chanter en même temps, on n'est pas dans un truc performatif en fait, dans l'idée de que Christophe proposait dans ces films-là.
Même Brigitte Rouen chante chez Christophe.
Brigitte Rouen. La chanson est envoyée sur le plateau, il chante en playback alors.
Exactement, on enregistre tout avant. Ce qui était drôle sur les films de Christophe, je vais la faire courte. Ce qui était drôle, c'est que moi, je m'étais pas rendu compte. Quand je les ai fait répéter, j'ai eu de la chance sur les chansons d'amour. Tous, ils savaient assez correctement chanter. Mon travail n'a pas été si compliqué que ça. Et donc, j'étais très fier quand on est arrivé en studio pour les faire enregistrer, de montrer à Christophe que tous ces gens-là chantaient assez bien. Et donc, c'est Louis, je crois, le premier qui se met derrière le micro, qui chante une chanson qui s'appelle Au ciel. Ouais. Et puis, je dis, t'as vu, c'est formidable, il chante hyper bien. Et Christophe me dit, c'est formidable, mais il se passe rien. Je dis, comment ça, il se passe rien? Il me dit, dans la scène dans laquelle il doit jouer, il est bouleversé parce qu'il sort d'un repas de famille qui s'est mal passé, il est essoufflé, il doit parler fort parce qu'il s'adresse à quelqu'un. Et là, moi, si tu me l'enregistres comme ça, comme dans un disque, il va rien se passer. Et je m'étais pas rendu compte que il faut enregistrer en studio des choses qui vont advenir à l'écran, qui vont se passer à l'écran, et qu'on n'est pas là pour enregistrer un disque en fait. Mais moi, j'étais très frustré parce que du coup, dans le film, ils chantent presque moins bien que ce que je les avais fait répéter. Moi, j'avais presque envie de faire une version disque. Et je passais mon temps à dire aux musiciens qui jouaient avec moi, non mais en vrai, ils chantent beaucoup mieux, mais c'est Christophe qui a voulu que là, la voix soit cassée, que là, ça soit plus parlé, que là, ça soit plus hurlé. Et il y avait toute cette dimension que moi, j'avais totalement laissé de côté.
Même, on entend des bruits de rue, de klaxons, de bistrot. C'est ça qui est bien aussi chez Honoré, c'est qu'on entend les bruits de la vie au milieu de ses chansons aussi.
Oui, il avait cette idée qui va un peu à l'encontre de la comédie musicale, qui était de dire, il avait toujours la crainte et que quand les chansons arrivent dans le film, l'enchaînement ne se fasse pas de façon fluide.
Ah bah c'est toujours le problème, toujours.
Mais je sais pas si c'est tellement un problème. Moi, je trouve que justement, dans West Side Story de Robert Wise, ils ont réglé le truc en disant, eh ben voilà, on s'en fout. En fait, ça arrive, ils se mettent à chanter et on va pas, tu comprends ce que je veux dire? On va pas en faire un problème. Alors que Christophe, dans son film, il y avait l'idée que quand il commence à chanter, par exemple, si on regarde des chansons d'amour, ils sont systématiquement filmés soit en plan large pour pas qu'on les voit de près, soit de dos. On les voit pas commencer à chanter. Ah. Il avait l'impression que ça permettait une liaison plus évidente entre les scènes dialoguées et les scènes chantées.
Alors que sur Les Bien-Aimés, vous dites, j'avais la dernière phrase que prononçait le personnage avant la chanson et presque la phrase qui allait enchaîner. Ça, c'est un travail de couture, là. Hein.
Bah, c'est-à-dire que pour les chansons d'amour, Christophe utilise des chansons qui existent déjà, que moi j'ai déjà écrites, et il construit son scénario autour. Pour Les Bien-Aimés, c'est le truc inverse. Il écrit un scénario, et au fur et à mesure du scénario, des chansons arrivent, et il m'envoie, généralement. Alors voilà ce qu'ils vont se raconter, ils sont deux, ils sont trois à chanter, voilà ce que la scène doit dire, voilà. Et généralement, il m'envoyait aussi un lien YouTube avec une chanson de France Gall, de voilà, en me disant, bah, j'aimerais bien que ça ressemble à ça. Ça ressemblait jamais à ça à la fin, évidemment. Mais il y avait cette idée que, voilà, il me disait quoi écrire et moi, j'essayais de le faire le mieux possible. Voilà.
Laurent? Oui, non, mais la transition du jeu à la chanson est toujours compliquée parce que ça peut être très ridicule. Et le meilleur exemple, c'est quand même comment Gene Kelly se met à chanter Singing in the Rain dans le film Chantons sous la pluie. Mais non, mais parce que pourquoi il chanterait? Alors, ce qui se passe, ça a été conçu comme ça. Il sort de la maison de Cathy Seldon, il est amoureux d'elle, et donc il sifflote parce qu'il est heureux. Pardon, il y a un masque.
Avec un masque, c'est dur.
Et là, la musique arrive et il se met à... Mais s'il n'y avait pas eu ce petit sifflement comme quoi il était heureux, ça ne marchait pas.
Une histoire d'amour à Los Angeles de nos jours entre un comédien de stand-up et une cantatrice de renommée internationale, Annette Leoscarax. One, two.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they...
Pierre-Marie Drudon, superviseur musical sur ce film. Tout part des Sparks, ensuite qui travaille avec Carax, cette histoire-là. À la grande différence de ce qu'on vient de parler auparavant, l'orchestre était sur le plateau.
Oui, c'est un des grands challenges du film, en dehors évidemment des performances des comédiens chanteurs qui étaient enregistrés en très très grande partie sur le plateau.
Ouais.
On a fait pareil avec l'orchestre, il y a deux, trois grosses séquences avec orchestre dans le film.
Simon Helberg, c'est ça le chef d'orchestre?
Simon Helberg, ouais. Exactement. Et donc il y a un...
Qui est à l'image donc.
Qui est à l'image, ouais. Donc, par exemple cette scène-là du conducteur où la caméra de Léo se tourne autour de Simon et en même temps l'orchestre joue, et donc du coup bah, ça a été... un travail d'expérimentation, de savoir comment on allait y arriver avec plusieurs ingénieurs du son, de cacher les micros, trouver des systèmes pour que les prises soient vraiment de qualité à la fin et qu'on puisse les mixer tout en...
En plan séquence, hein.
En plan séquence, oui.
Avec il n'y a pas de raccord, c'est dingue. Hein.
Trois minutes là-dessus. Il y a Clément Ducol qui était l'orchestrateur principal de ces musiques-là qui était là le jour du tournage, et une séquence assez folle de lui assis derrière la caméra en train d'aider Simon à faire le chef d'orchestre. Donc il tournait avec la caméra autour de Simon et les musiciens de l'orchestre le suivaient pour suivre évidemment le clic, la partition, qu'on puisse utiliser cet enregistrement. Et c'était vraiment fantastique à avoir fait.
La double peine, c'était à l'étranger et avec le Covid en même temps.
Oui, alors le tournage était en l'été, printemps et automne 2019, donc c'était avant ce qui nous est tombé dessus depuis. Mais effectivement, quand on était en post-production, il fallait continuer à faire des choses, et en particulier enregistrer une partie de la musique. Donc ça a été fait, une partie pop par les Sparks à Los Angeles, un orchestre en Allemagne, on était avec Léos à Paris en train de l'enregistrer, une chorale d'enfants en Angleterre, des solistes à Bruxelles et à Paris, et des ingénieurs du son à Montreuil, Yann et Nicolas Dupin.
Et la petite merveilleuse Annette Defain, vous l'avez enregistrée où, cette petite fille?
Ça a été tourné en Allemagne à la fin du tournage, et c'est du direct à 100%. C'est une petite américaine que Léos a castée, je crois qu'elle est du coin de New York.
Oui.
Et là, non, c'est pareil, hein, c'est 100% tournage avec Adam. Et on n'a retouché à rien de ça, il n'y a pas eu de post-synchro, rien du tout, c'est vraiment complètement pris sur le vif.
Sinon, Marion Cotillard, je le disais, jouait une diva classique. On va l'entendre dans cette aria, mais est-ce que c'est elle qu'on entend ? Mystère.
Question.
Là, c'est la voix de qui, Pierre Marédru ?
C'est un doux mélange de Marion Cotillard et Catherine Trottmann.
Et là, en ce moment-là ?
Même réponse. Ouais.
Mais comment on peut coudre entre elles deux voix ?
Le talent de Katia Boutin, la monteuse voix du film.
C'est du montage.
Oui, certes !
C'est une émission de cinéma, une émission de cuisine.
On en a payé de haute
couture. Arrêtez d'être taquin avec vos pains, s'il vous plaît.
C'est le pays de la haute couture.
Mais donc, oui,
on a fait ça.
C'est
oui.
Ce qu'on a fait. On a essayé plein de choses, on a travaillé
avec Pierre Ferme sur la pensée. Voilà, c'est ce qu'on entend là, c'est pas possible.
Marion a fait un travail exceptionnel de préparation, elle a poussé. Tout le reste du film, c'est elle qui chante. Et sur cette séquence-là, elle a poussé au maximum tout ce qu'elle pouvait faire, évidemment c'est pas une chanteuse lyrique, mais elle a poussé, elle s'est entraînée comme une dingue. Et à la fin, avec sa performance, on a pu travailler Catherine Trottmann et faire de la couture entre les deux voix, mais vraiment toutes les amorces, c'est Marion. Et là, on va rentrer dans la forêt, dans le film.
Oui.
Et c'est l'inverse qui se passe. C'est plutôt Marion, et avec, dans le dosage, et un petit peu moins de Catherine. Et c'était génial à voir faire, parce qu'en fait, c'est en séance de post-synchro, Marion est venue, c'était génial pendant qu'on enregistrait Catherine. Et c'est presque elle qui l'a coachée avec Léos, en lui expliquant ce qu'elle voulait faire passer à ce moment-là comme comédienne, ce qu'elle avait, l'interprétation
qui était la sienne de comédienne. Doit suivre le physique de Marion.
Et on l'a choisi comme ça d'ailleurs. On a fait un casting de voix, en fait, entre de très grandes chanteuses lyriques. Et on a choisi celle dont le timbre se rapprochait le plus de celui de Marion, qui est un petit peu basse comme ça. Et je crois que ça marche.
Super exigeant, Carax.
Ah, oui, c'est le moins qu'on puisse
dire.
Je voudrais vraiment dire. C'était absolument fantastique de travailler sur ce film quand on fait mon métier. C'était que de la joie. C'est-à-dire que faire comment on transforme cette voix, comment on fait chanter une marionnette, comment on enregistre un orchestre pendant un tournage, c'est unique.
Ça s'appelle Annette Léos-Carax. Et on va parler maintenant d'autres expériences qui ont eu lieu en France. Et notamment cette drôle d'expérience, ce film de Claude Duty, Fille perdue, cheveux gras.
Quand t'as de la peine, pense aux Kurdes, aux Tchétchènes. Tes problèmes, à côté, c'est de la crème. Le malheur fait un malheur. Partout, le bonheur, finalement, c'est chez nous. À Kaboul, la mode, c'est la cagoule. À Tchernobyl, y'a trois jambes au blue jean. Le bonheur, c'est ici.
Bon, c'est très drôle ces paroles d'Alex Baupin dans ce mélo musical Fille perdue, cheveux gras.
Ah, c'est drôle, mais ça rappelle une tradition française. Les jeux de mots qu'on peut trouver dans des films de Jacques Demy, des blagues un peu bêtes, mais volontairement un peu. Voilà. Moi, je trouve qu'on retrouve cet esprit-là dans le film de Duty en réalité. Ça vient vraiment de là. J'ai l'impression.
Ouais. Il y a un autre exemple, bien sûr, de Osons 8 femmes. Alors là, c'est un petit peu différent, effectivement, puisque ce sont des chansons connues, rechantées par des actrices, et notamment Isabelle Huppert.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût.
Laurent Vallière, vous disiez.
Ah non, mais je trouve qu'elle a tous les talents. Isabelle Huppert est incroyable. Le film est super kitsch, mais il est super réussi. C'est tellement agréable de voir des actrices comme Virginie Ledoyen, Catherine Deneuve chanter.
Mais ce qui est intéressant avec cette chanson-là pour elle, c'est qu'elle a un personnage assez rigide.
Oui, et tout d'un coup.
Et que d'un coup, elle se lâche grâce à cette chanson.
Ouais, mais c'est. En fait, on dit toujours que la comédie musicale, le chant, il commence quand les mots ne suffisent plus.
Exactement.
Et que c'est la mélodie et la musique qui arrivent à exprimer les sentiments.
C'est le terrain du lyrisme, la chanson. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins ridicule. Il y a plein de choses qui sont beaucoup moins ridicules à exprimer en chanson qu'à exprimer en dialogue, en fait, moi, je crois. C'est là que c'est beau, la comédie musicale.
Vous connaissez tous les trois un film qu'on a beaucoup aimé avec Laurent, qui est une fiction, un doc chanté, qui s'appelle « Chante ton bac d'abord ».
Pas du tout.
Ah, on va vous faire écouter un film de David André, et c'est une jeune étudiante qui s'exprime en chantant.
Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus, si vous êtes encore enfant, au fond, ou si vous n'y croyez plus, c'est l'histoire de nos 17 ans, comme vous les avez vécus, c'est l'histoire de nos parents.
Alex Baupin, moi, ça me rappelle un petit peu comme si ça copiait un peu ce que vous faites, vous. Bon, là, c'est des lycéennes. Des lycéennes, donc des filles, voilà, qui chantent pour s'amuser, dans leur ville, c'était à Boulogne-sur-Mer d'ailleurs. Ça vous plaît?
Oui, moi, j'aime bien, l'idée de faire chanter des amateurs m'a toujours, intéressé.
Oui.
Je trouve que c'est des amateurs, je veux dire des gens qui sont pas forcément chanteurs.
Ouais.
Je trouve qu'il y a toujours une émotion là-dedans, quelque chose, on l'entend dans la voix de la jeune fille qui chante là. Il y a quelque chose d'à la fois un peu naïf parfois, mais qui donne une émotion supplémentaire aux chansons. Moi qui suis pas très attiré par les choses très performatives quand il s'agit de chansons, je suis toujours très ému par ces fêlures-là qu'on entend là dans la chanson que vous avez passée. Je connaissais pas le documentaire dont vous parlez, mais je vais regarder ça.
Ouais. Pourquoi Laurent Vallière, on pourra jamais copier les Américains en termes de comédie musicale?
C'est compliqué parce qu'en fait, vous savez, nous, au lycée, au collège, à l'école, on joue Molière. Hein, et eux, ils ont tous... vous parlez à n'importe quelle petite américaine, elle a toujours joué Maria. Elle a toujours un jour joué Maria ou Grise au collège. Donc déjà, ils partent de très très loin. Ils apprennent très très vite ça. C'est dans leur culture.
C'est une langue commune, oui.
C'est une langue commune, ouais. Oui. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture du performatif, du show-off, de la danse, du jeu. Il y a des écoles de comédie musicale, mais on n'a pas... on n'a peut-être pas... On n'apprend pas suffisamment tôt à le faire, en tout cas.
Pierre-Marie Dru, vous êtes en train de travailler avec un cinéaste français qui ne nous avait pas habitué à ça et qui prépare une comédie musicale, c'est Jacques Audiard.
Oui, je ne peux pas vous en dire beaucoup.
Bien tenté.
Vous ne m'aurez pas écouté.
Bien essayé.
Mais c'est quand même symptomatique que Jacques Audiard prenne ce genre-là. Quoi. C'est très étonnant.
Ouais, c'est une chose de... c'est tellement spécial que c'est différent.
On peut s'attendre.
Il ne faut pas que ça devienne une... Il ne faut pas que les metteurs en scène s'y intéressent, parce que ça devient une mode, Laurent Vallière. Il faut vraiment qu'il soit comme Carax, à vraiment ressentir la musique, ou comme Honoré.
Oui, moi, ce qui m'intéresse...
On dit que Noémie Lvovsky en prépare une aussi.
Serge Bozon a tourné un film autour de Don Juan avec Tahar-Rahim où il chante. Ouais. Non, mais il y a plein de trucs
qui vont... Le CNC a généré aussi un...
C'est pour ça.
Voilà.
À inciter les producteurs et à donner de l'argent aux producteurs pour faire des comédies musicales. Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, et ce qui est vraiment, moi, me marque toujours à chaque fois que je vois une comédie musicale française au cinéma, c'est qu'il n'y a pas de danse. Mais il y a une raison très simple, c'est parce que vous multipliez par 10 le jour de tournage. Parce que c'est super compliqué dès que vous mettez la danse. Or, moi, la comédie musicale, je me soulève du fauteuil. Bon, évidemment, les chansons d'amour sont un cas un peu particulier. Mais très souvent, on se lève du fauteuil parce qu'il y a un moment où on danse. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Meryl Streep. Je lui ai dit, Meryl Streep, vous êtes incroyable, vous jouez super bien et vous chantez super bien. Et qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites des comédies musicales? Et elle m'a répondu à ma grande surprise, la danse.
Oui.
Parce qu'avec la danse, j'arrive à sortir de ce que je fais généralement et ça élève le spectateur. Et c'est ce qui manque toujours dans les comédies musicales françaises. Je sais pourquoi il n'y a pas d'argent. Donc voilà.
Merci à tous les trois, vous restez avec nous. Donc votre podcast, Laurent Vallière, c'est à partir du 8 décembre.
À partir de mercredi.
Et 42e rue fait son show au studio du 104 de la maison de Radio France. C'est lundi 13 décembre prochain.
C'est en direct sur France Musique à partir de 20h et on aura... Venez, on va entendre Catherine Trottmann chanter l'aria de Annette l'Orchestre National de France.
Et le 23 janvier, on va entendre Alex Baupin dans l'Hyper Weekend Festival, n'est-ce pas, à l'Auditorium?
Oui, je refais Love on the Beat de Serge Gainsbourg et quelques autres chansons des années 80 de Serge Gainsbourg.
Bravo.
C'est pas mal du tout.
On attend.
On écoute les Limignanas qui rencontrent Laurent Garnier et Bertrand Belin au début. C'était le début. Laurent, on va parler des sorties. On va commencer par cet incroyable film de Mohamed Rasoulov qui s'appelle Le diable n'existe pas. Iran de nos jours. Eshmat est un mari et un père exemplaire, mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un dilemme cornélien. Bahram, médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Quatre récits inexorablement liés, bien sûr liés aussi à la peine de mort. Ours d'or à Berlin en 2020, Le diable n'existe pas, quatre histoires dont chacune vient prolonger ou contredire la précédente, même si l'ensemble en fait un document implacable. Pour moi, la première reste un pur chef-d'œuvre de cinéma dans son contenu, son déroulement, sa réalisation et, mon Dieu, dans sa chute.
Oui, alors, Mohamed Rasoulov, c'est vraiment un très très grand cinéaste iranien, il faut le dire, il faut le répéter, parce que certains, deux ou trois autres, cachent un peu peut-être sa figure à lui. On lui donne notamment un magnifique film qui s'appelait Un homme intègre. Alors, cette façon de faire, effectivement, vous disiez quatre, c'est vraiment quatre nouvelles, comme on a des nouvelles en littérature, et d'autant plus que, effectivement, vous le disiez, il y a des chutes à chaque fois. Et ça, c'est vraiment, je trouve, formidable, c'est extrêmement bien raconté. La première est peut-être, effectivement, la plus saisissante. Ouais. On ne rencontre donc rien de ce qui se passe jusqu'au bout. Ouais. Ce cinéaste est persécuté par l'État iranien, il faut le dire. Il est relégué, il est enfermé chez lui.
D'où ces quatre courts-métrages, puisque vous bâtonnez un nom.
Absolument. Et au fond, ce qu'il raconte là, c'est aussi son enfermement à lui, parce qu'il montre des gens qui sont que la culture d'État cultive, donc la culture d'État cultive la honte, le refoulement, la culpabilité. C'est tout cette machine d'État que Rasoulov montre. Et ben, si le diable n'existe pas, c'est tout simplement que l'enfer, c'est ici et maintenant, et que c'est pas les autres, mais c'est nous. Voilà ce que dit Rasoulov.
Autre cinéaste enfermé dans son pays, c'est le russe Kirill Serebrennikov avec La fièvre de Petrov. L'histoire, affaiblie par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation, alcoolisé à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d'enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent. C'est un trip baroque, c'est tortueux et dans lequel il est recommandé de se perdre entre cauchemar et décadence. C'est d'une immense audace formelle où il mélange les genres, les formats, se donne toutes les libertés dans des plans spectaculaires. Moi, je repense notamment à cette scène merveilleuse de l'enfance en caméra subjective. Voilà pour la forme et pour le fond. C'est une charge sur la Russie de Poutine où il vaut mieux se bourrer la gueule pour supporter le quotidien. Je ne m'explique pas, Laurent, le jury cannois qui est passé à côté d'un tel film en préférant l'audace très branchée d'une jeune réalisatrice.
Oh là là, si on commence à parler des jurys cannois, allez, ne fâchons personne. Non, ce qui est très étonnant avec le film précédent, c'est que ce sont là deux cinéastes empêchés. Ouais. Empêchés par des gouvernements autoritaires qui les empêchent de travailler, qui les condamnent. C'est le cas de Serebrennikov à 3 ans de prison avec sursis. C'est son cas en ce moment. Et évidemment, interdiction de sortie du territoire en assortiment du jugement. Et au fond, moi, j'ai vécu ce film de cette, un peu de cette manière-là.
Comme un enfermement.
Comme, oui, comme d'une plongée dans sa tête à lui. Ouais. C'est-à-dire que c'est la tête de ce pauvre cinéaste empêché et qui, du coup, se dit, ben, il faut créer, il faut vivre à tout prix, il faut bouger, il faut remuer, il faut, alors tant pis, c'est parfois assourdissant, étourdissant, presque assommant, parfois, mais il faut vivre cette métaphore jusqu'au bout parce que c'est la plongée dans la tête d'un cinéaste empêché de créer. Et de ce point de vue-là, comme Laura Zouloff, c'est vraiment des films passionnants et très, très intéressants.
Il me fait penser à un Fassbinder moderne, un peu Zerebrennikov, qui tourne contre le temps, voilà.
Absolument, tout à fait. Il y a une lutte contre le temps.
Ouais. Le nouveau film d'Almodovar, Mère parallèle, mais il n'est pas traduit comme ça, c'est Madres paralelas.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a deux films dans ce film. Il y a la petite et la grande histoire. La grande, c'est celle des charniers franquistes, abordé au début et repris seulement à la toute fin. Dommage, parce que Almodovar n'avait jamais abordé le passé douloureux de son pays. Il a préféré se concentrer sur ce qu'il filme le mieux, le mélo, à travers la figure de deux mères, du déjà-vu chez lui, mais sans la flamboyance du passé.
Oui, non, je suis assez d'accord avec ce constat un peu triste. Voilà, oui. On le dit parce qu'on adore Almodovar, que évidemment qu'on est toujours content de retrouver l'amour et la transgression, l'usurpation d'identité, le vampirisme, la maternité. D'accord, tout ça est là effectivement. Et tant mieux quand les grands cinéastes se répètent. C'est peut-être parfois ce qu'ils font de mieux. Mais là, en l'occurrence, on est d'autant plus déçu qu'effectivement se plaque ce propos historique, alors que Pedro Almodovar avait produit avec son frère un magnifique documentaire. Mais voilà, sur le long temps du documentaire sur ce sujet-là. Donc on se dit pourquoi, comme vous le disiez très bien, avoir voulu plaquer cette histoire du post-franquiste, on ne comprend pas très bien le propos, à vrai dire.
Français, la pièce rapportée de Antonin Peredjatko, Paul Château-Tétard, c'est Philippe Catherine, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 6e arrondissement, va rencontrer dans le métro une jeune guichetière, Ava, va se marier avec elle et gros conflit avec la belle-mère incarnée par Josiane Balasko. La revanche des classes populaires sur la grande bourgeoisie, vaudeville, burlesque, c'est un peu sort de ce corps, Jean-Pierre Mocky, non?
Oui, alors il y a, faut le dire, il y a au centre un personnage qui s'appelle Ava et qui est Anaïs de Moustier. Alors oui. Anaïs de Moustier, c'est la fée clochette du cinéma français et à chaque fois qu'elle est là, ça fait du bien. Bon, malheureusement, le reste, c'est effectivement assez boulevardier, assez vaudevillesque. Pourquoi pas? Il a le droit, Peredjatko, de prendre le boulevard et le vaudeville, surtout qu'on se dit qu'avec lui, il va les dynamiter de l'intérieur. Mais pas tellement. Il effleure certains gros sujets comme l'impôt sur la fortune, ou bien les migrants, mais là aussi il ne s'y arrête pas. Alors quelquefois on retrouve la très grande liberté qu'on adore dans ses précédents films, mais franchement l'ensemble ne décolle pas et c'est assez poussiéreux.
Ça s'appelle La pièce rapportée. Et enfin, au commencement, premier film d'une géorgienne qui s'appelle Dea Kouloumbegashvili. C'est un film radical influencé par Tarkovsky, Haneke ou Carlos Regadas. Le réalisateur mexicain, d'ailleurs, coproduit ce film, Laurent, au commencement.
Mais oui, c'est étonnant parce que, premier film d'une réalisatrice géorgienne, coproduit aussi avec des Français, et puis la figure de Carlos Regadas, le Mexicain, dont on apprécie l'extrême radicalité, et manifestement, il y a une vraie filiation. On y pense dès le premier plan du film, qui nous montre les préparatifs d'une fête religieuse, brusquement interrompue, je n'en dirai pas plus, mais c'est là, on a presque l'impression d'être dans du Regadas. C'est-à-dire un style extrêmement dépouillé, contemplatif, rude, il faut le dire, sur fond de sectarisme religieux. Et le film met en avant une figure féminine, victime de ce machisme absolument ambiant. C'est tendu, c'est vibrant, c'est provoquant, bah, c'est du cinéma, quoi.
Les aventures d'un mathématicien, un biopic de Thorsten Klein en 42 au Nouveau-Mexique, Stan Ulam, mathématicien polonais, rejoint un groupe secret de chercheurs venus du monde entier pour collaborer à la création de la bombe à hydrogène. Loin de sa famille, resté en Europe et tiraillé entre le questionnement éthique, avancée scientifique et urgence politique. C'est un fond passionnant, une forme plus académique.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que ce que ça raconte, la narration de l'invention de l'apocalypse nucléaire, en quelque sorte, bon, mais ça parle des scientifiques, ça c'est absolument passionnant, mais alors franchement, quel biopic sans âme qui déroule tranquillement sa chronologie, qui frôle très souvent effectivement l'académisme. On se dit, mais avec un tel sujet, il aurait fallu, sans jeu de mots, et vibrer, être à l'unisson de cette incroyable recherche, de ces incroyables découvertes. c'est quand même pas le cas, quoi. C'est dommage.
Et on va le dire vite, mais c'est une très grande reprise. C'est le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, Alain Delon, Bourvil, Gianmaria Volonté.
Ben oui, 1970, chef-d'œuvre absolu, photo d'Henri Dequet, avec un haïku inventé par Melville pour, comme titre. C'est totalement faux. C'est,
pas ah oui.
Tout, oui, c'est pas du tout oriental, mais c'est la mort au travail, ça c'est vrai.
Les cadeaux maintenant pour nos invités qui l'ont bien, vraiment bien mérité. On va commencer par Alex Baupin.
Alex Baupin, un livre qui est aussi évidemment des recommandations de cadeaux à nos auditeurs. Hein, c'est la saison.
Génial.
L'encyclopédie de la comédie musicale de Patrick Brion chez Télémac. 550 pages du chanteur de jazz 1927 jusqu'à Spielberg à nos jours. C'est tout simplement la Bible de la comédie musicale. Génial. Voilà, c'est merveilleusement illustré. C'est très bien écrit, évidemment, par le spécialiste Patrick Brion, monsieur cinéma. Et donc, on vous fait ce cadeau. On le fait aussi, on le recommande chaudement à nos auditeurs, Alex Baupin. Voilà, vous vous régalerez, je pense, comme nous.
Ouais.
Alors, pour Pierre-Marie Dru, eh bien, on a... alors, la bande musicale n'est pas énorme, hein, mais Johnny Guitar, il y a quand même une petite chanson hein, qu'on connaît bien, ça, c'est pour vous quand même. Nicolas Ray, chef-d'œuvre absolu, dont Truffaut disait « C'est un western rêvé, irréel au possible, délirant ». Voilà, il a très très bien résumé. Les bonus sont incroyables parce qu'il y a juste une introduction de Martin Scorsese, une autre de Bertrand Tavernier et une troisième de Patrick Brion, plus une version restaurée 4K et un livre qui accompagne ce DVD Blu-ray, publié, édité chez l'excellent Sidonis Calista. On est très heureux de vous l'offrir, Pierre-Marie Dru, et de le recommander chaudement.
Oui, il y a plein d'histoires de coulisses qui sont racontées dans le livre.
C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Et enfin.
Et puis une petite surprise pour vous, Laurent Vallière, un certain Annette d'un certain Léo Scarabs qui vient de sortir combo bourré DVD et CD de la BO, donc c'est vraiment la totale sur le film. Il y a le making-of du film, c'est chez UGC, et il y a aussi un entretien avec Marion Cotillard. Voilà,
merci
très
beaucoup.
Beau DVD
merci.
Également.
Merci Laurent Vallière, merci Alex Baupin, merci Pierre-Marie Dru.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.